Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de retrouver le nom de Max Ducos sur cet album grand format qui donne envie de se replonger dans Jeu de piste à Volubilis ou Vers secret ou encore L'ange disparu. Même si pour la première fois, dans celui-ci, Boucle de pierre, il partage le titre avec un auteur, Clémentine Beauvais, un auteur avec qui, dit-il, il a travaillé de façon tout à fait indépendante. Tous les jours, cette petite fille traverse le parc public pour rejoindre son oncle malade. Elle prend le temps de contempler le jardin aux statues impressionnantes, jusqu'à remarquer la pousse des chevelures des statues qui accompagne la pousse de la végétation. Elle ne peut que constater ce mystère qu'elle partage jour après jour avec son oncle. Et il nous faudra bien attendre la chute malicieuse pour en savoir plus. Entrez donc dans cet album plein de fantaisie et de mystère, aux illustrations colorées, lumineuses, détaillées, qui vous donnera peut-être envie de regarder un peu mieux autour de vous. On ne sait jamais. Depuis que mon oncle est malade, je traverse le parc tous les jours pour lui rendre visite. On remarque des choses quand on traverse un parc deux fois par jour, tous les jours, pendant un mois, deux mois, puis trois, puis quatre. Je remarque des gens qui promènent leurs animaux, des bébés qui grandissent, des fleurs qui naissent, des branches qui cassent, des amoureux qui s'embrassent, et puis moi, et puis non. La grande époque des marrons chauds, et un jour, le camion à glace qui les remplace. Et puis, un matin, je remarque que les cheveux des statues poussent, et leurs poils aussi. On le remarque seulement quand on fait attention. Les cheveux des statues poussent lentement, comme les nôtres. Les cheveux des statues sont en pierre, comme elles. Ils ne sont jamais hirsutes. Ils tombent gracieusement en boucles fines ou en vagues lisses, avec beaucoup d'élégance. Début septembre, la statue de l'entrée, drapée d'un voile de pierre léger, avait un joli chignon haut. Maintenant qu'on est en avril, ses longs cheveux lèchent le bas de son dos. Je sers à mon oncle une part de tarte aux poires, avec beaucoup de crème. Tonton, je lui dis, les statues du parc ont les cheveux qui poussent. Il répond, ah bon? Et ajoute encore de la crème. Et les poils aussi, je précise. Il répond, tiens donc. Ensuite, il tousse encore un peu, mais moins qu'au début de sa maladie. Et il mange avec beaucoup plus d'appétit. Et les petits chérubins de la fontaine, tu sais, ils avaient des boucles toutes courtes. Et maintenant, on dirait qu'ils vont fonder un groupe de rock. Ils doivent avoir l'air cool, commente Tonton, en reprenant une part de tarte. Au fil des semaines, Tonton me demande de plus en plus souvent, « Raconte-moi à quoi ressemblent les statues en ce moment. » Le colonel à cheval dans l'entrée. Son chapeau a glissé sur toutes ses boucles. On dirait un bateau sur une rivière. Et les trois grâces près du kiosque, Ils ne voient plus rien à cause de leur frange qui descend jusqu'au menton. Les pauvres, commente mon oncle. Elle rate la floraison des cerisiers. Et le satyre près du manège, il ressemble à un gros mouton frisé. Au pied de la petite statue de la liberté, il y a une dame qui nourrit les pigeons tous les jours. Je m'approche d'elle entre deux pluies de miettes. Madame, vous n'avez pas remarqué quelque chose ces derniers mois avec les statues du parc? Mais si, murmure-t-elle, qu'est-ce qu'il fabrique ce coiffeur? Coiffeur? La dame hoche la tête. Qu'elle a couverte de bouclettes, comme la statue juste derrière. D'habitude, il vient régulièrement, pauvre statue. Ce n'est pas comme si elles pouvaient dégager leurs cheveux d'un revers de main ou se faire des couettes. Elles sont coincées avec leurs jambes poilues et leurs crinières. Je m'étonne. Les jardiniers ne peuvent rien faire. Ce n'est pas comme tailler des buissons, explique la dame. Il faut des ciseaux à pierre et des limes de toutes sortes et une grande expertise en la matière. Voilà, je vous laisse découvrir la suite de l'histoire et voir dans quel état ces pauvres statues vont être. À bientôt.
Mission Mammouth. Histoire naturelle, tome 3. Jeune lecteur de 9 ans et plus, cette histoire va vous entraîner, je cite, au bord du monde, là où l'hiver est féroce comme un loup. Cette aventure est ancrée dans un fait réel, comme souvent chez l'auteur Xavier Laurent Petit, et précisément dans cette série, Histoire naturelle, éditée par l'École des loisirs. Chaque tome associe un enfant à un animal et à un lieu, et dans un climat particulier. Vous allez lire une aventure liée à une découverte scientifique qui date de plus d'un siècle. Le narrateur est l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de la jeune Alexandra, à qui elle raconte la fabuleuse découverte qu'elle a faite en 1901, alors qu'elle n'était qu'une enfant de 10 ans. On est dans le grand nord de la Sibérie orientale, et la jeune Amuksa est partie chasser avec son père. Pendant toutes ces journées, il m'a appris à suivre les traces presque invisibles des zibelines dans la neige. Il m'a indiqué ses meilleurs endroits de chasse. Il m'a obligé à rester parfaitement immobile alors que le vent me cisaillait la peau. Il m'a montré comment piéger les renards et comment approcher du gibier sans qu'il soupçonne ma présence. Il m'a amené à une source chaude qui jaillissait du ventre de la terre alors qu'autour tout était glacé. Il m'a aussi appris à survivre. Parfois, le bourrin se levait sans prévenir. En quelques instants, le vent se mettait à hurler et des milliers de petits cristaux de glace, aigus comme des aiguilles, nous transperçaient la peau malgré nos masques de fourrure. La neige tombait si drue que j'apercevais à peine la silhouette de père. On n'avait que quelques instants pour construire un abri de neige et de branches avant de geler sur place. Ensuite, il fallait allumer un feu malgré le vent qui tordait les flammes dans tous les sens. Et on attendait 2, 3, 4 jours. Au printemps, ils partent pour Kolymsk, vendre des peaux de renard, zibeline, loup, vison. Ils font halte au bord du fleuve Berezovka, bordé de marais envahis par les roseaux. C'est là qu'Amuksa va apercevoir une chose énorme enfouie dans la boue gelée. Seule émerge de cette masse ce qu'elle prend pour des branches bizarres, parfaitement lisses et recourbées. Je vous laisse savourer seule la scène de la découverte du mammouth que la fonte des neiges a repoussé à la surface. L'émotion n'en sera que plus forte. Le père, attiré par l'appât du gain, déclare « Il paraît que certains blancs s'y intéressent de près. Yavlovski me l'a dit. Il les appelle les outcheniers, les savants. Nous, on sait que les mammouths vivent sur Terre, mais ces types-là, ils s'imaginent que ce sont des bêtes du temps passé, des animaux qui vivaient avant nous, ou une histoire comme ça. Drôle d'idée, hein ? Et ils aimeraient bien en savoir plus, découvrir ce qu'ils mangeaient, je ne sais quoi encore. Et pour ça, ils cherchent des bêtes entières, avec la peau, les os, la chair, les cornes et tout le bazar. Oh, je vois pas bien à quoi ça peut leur servir, mais je m'en moque. Ils sont prêts à payer. C'est tout ce qui m'intéresse. » Il va donc atteler ses traîneaux et partir retrouver Yavlovski, laissant Amuksa seul, livré à bien des dangers. La fillette passera 5 jours dans une petite tente de chasse avec son chien et un fusil pour repousser les attaques des animaux sauvages attirés par l'odeur pestilentielle de la chair pourrissante du mammouth qui se décongèle. L'illustratrice Amandine Delaunay a choisi d'insérer ces images dans quelques scènes particulières, comme prises par le gel et suspendues dans le temps. Certaines sont inspirées de photographies datant de l'époque où vivait la peuplade d'Amouska, perdue dans l'immensité de l'Empire russe du début du XXe siècle. Au rythme du récit, nous faisons un voyage dans le temps et dans la science, avec l'arrivée des savants Fiesenmeier et Hertz qui viendront de Saint-Pétersbourg après une expédition de 100 jours récupérer la carcasse du mammouth au cœur de la Sibérie. Frigorifiés et exténués, ils vivront un moment d'émotion paroxystique en voyant pour la première fois le mammouth, du moins ce qu'il en reste. La nuit n'était pas encore tombée quand père et moi l'avons emmené au bord de la Berezovska. À peine l'a-t-il aperçu que Fitz est tombé à genoux dans la neige. Il s'est mis à pleurer tandis que Hertz sautait comme un fou en poussant des cris. Oh, les blancs sont vraiment étranges. Les deux savants ramèneront les ossements de l'animal qu'ils installeront, reconstitués, dans le grand hall du musée zoologique de Saint-Pétersbourg. La petite illettrée, qui fait partie du voyage, découvre les villes et le confort moderne si éloignés du rude quotidien des trappeurs. Mais père et fille rentreront sans regret, laissant derrière eux le mammouth et le savant Fiesenmeier immortalisera le nom de notre héroïne à la page 126 du livre qu'il publiera dans les années 1930, intitulé « Les mammouths de Sibérie ». Son œuvre a inspiré l'auteur, Xavier Laurent Petit. Il dédicace son roman à son arrière-grand-père qui fut directeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris.
Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mise en ligne sur le blog lire et faire lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute !